d'aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous, il est 18h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Zimbabwe, l'élection d'Emmerson Mnangagwa est officiellement validée.
Parce que, en effet, l'opposition de M. Chinamaza n'avait pas soumis à la cour des preuves directes. Ils avaient soumis des témoignages.
La République démocratique du Congo dans l'attente de la liste provisoire des candidats aux élections. Au Cameroun, de violents combats entre l'armée et des séparatistes anglophones dans le nord-ouest du pays. Le président Donald Trump s'en prend vivement à son ministre de la Justice sur Twitter. Et dans la Minute Écho, les connaissances africaines au cœur d'une conférence de la BAD à Abidjan. Et le Sénégal affûte ses armes pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict sur la requête en annulation de l'élection du président sortant, Emmerson Mnangagwa, déposée par l'opposition. Les 9 juges à l'unanimité ont rejeté, faute de preuves, le recours de l'opposition. Sur place, notre correspondante Patricia Young.
C'est un jugement sans réelle surprise au Zimbabwe. Le principal opposant, Nelson Chamisa, et son parti avaient saisi la justice pour demander l'annulation du scrutin du 30 juillet. Hier, ses avocats avaient longuement énuméré des fraudes qui, selon eux, ont entaché le processus électoral. Le président Emmerson Mnangagwa n'a été élu qu'avec 50,8% des voix, une avance suffisamment faible pour argumenter que ces irrégularités, si elles étaient prouvées, aient pu faire basculer le résultat final. Mais la Cour a rejeté la plainte et l'élection d'Emmerson Mnangagwa à la présidence du Zimbabwe a été confirmée. À l'annonce du verdict, il y avait une forte présence policière dans les rues de la capitale. Mais des troubles sont peu probables. 2 jours après le vote, une manifestation violemment réprimée par les forces de sécurité s'est terminée par la mort de 6 personnes. Les Zimbabwéens sont résignés. La prestation de serment d'Emmerson Mnangagwa aura lieu ce week-end. Il lui sera néanmoins difficile de faire oublier les soupçons de fraude et les violences qui ont suivi le scrutin. Patricia Huon, Johannesburg pour VOA Afrique.
La République démocratique du Congo en attente des listes provisoires des candidats à la présidentielle et aux législatives du 23 décembre. Après 5 jours de délibération, la Commission électorale nationale indépendante doit les publier ce vendredi. Une étape importante avant la publication le 19 septembre prochain des listes définitives. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est depuis le lundi dernier que les 13 membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, conduits par Corneille Nangaa, passent au peigne fin les 25 dossiers des candidats présidents de la République et les 15 450 des candidats députés nationaux. Des travaux de délibération, des candidatures aux législatives nationales et à l'élection présidentielle qui doivent aboutir à la publication ce vendredi 24 août 2018, conformément au calendrier électoral des listes provisoires des candidats présidents et députés nationaux. Face aux nombreuses spéculations qui alimentent l'opinion en cette période d'attente, la CENIR appelle au calme et rassure que tout sera fait conformément aux lois du pays. Les candidats malheureux auront du 25 août au 4 septembre pour le dépôt et le traitement de leur dossier auprès de la Cour constitutionnelle, car c'est le 19 septembre prochain que la Commission électorale nationale indépendante doit publier les listes définitives. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et par ailleurs, dans l'est de la RDC, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a franchi les lignes rebelles, selon l'Organisation mondiale de la santé. Un cas confirmé et un cas présumé ont été recensés dans la ville d'Oicha, dans le nord Kivu. Oicha n'est pas contrôlé par les rebelles, mais le territoire qui entoure la ville est sous l'emprise des rebelles ougandais, des forces démocratiques alliées. Au Cameroun, violents affrontements ont eu lieu dans les 2 régions anglophones entre les séparatistes et l'armée dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les affrontements, rapportent les sources sous anonymat contactées par VOA Afrique, se sont produits aux premières heures de la matinée de ce jour. Dans le nord-ouest, ils ont eu pour théâtre l'axe routier Essou-Woum, situé à 106 km de Bamenda. Face à face, l'armée camerounaise et le Southern Cameroon Restoration Forces n'ont attribué aux troupes d'hommes armés qui combattent l'armée régulière. D'après les informations recueillies par VOA Afrique, un contingent de soldats camerounais tombé dans une embuscade qui leur a été tendue par les séparatistes aux alentours de Woum. Le porte-parole de l'armée camerounaise et le gouverneur de la région du Nord-Ouest sont restés injoignables toute la journée pour confirmer le bilan des affrontements tels que fournis par les séparatistes sur les réseaux sociaux, à savoir 3 morts côté armée camerounaise, en plus d'armes saisies par les séparatistes et la destruction d'un bâtiment administratif dans la localité de Banekouma, dans le nord-ouest. Selon les populations de Bouya, des coups de feu ont retenti également. Dans la matinée, du côté de Molikomouya, région du sud-ouest, les séparatistes ont annoncé leur intention de perturber la prochaine élection présidentielle en zone anglophone, tandis que l'armée reprend peu à peu certaines localités jadis sous contrôle des séparatistes, à l'instar de Ndjika, reconquise en début de semaine. Emmanuel Jouldap Yaoundé, VOA Afrique.
En Ouganda, un partisan du chanteur et député Bobi Wine est décédé après avoir été blessé par balle par la police. L'incident s'est produit lors d'une manifestation de soutien à l'opposant inculpé de trahison. La police locale affirme qu'un homme armé d'une hache et d'une machette s'est précipité et a chargé les policiers qui ont tiré. Et en Ouganda toujours, l'ancien chef de la police, le puissant général Kale Kayihura, a été inculpé par un tribunal militaire. Il est accusé d'avoir armé un groupe criminel et permis l'enlèvement de réfugiés. Le procureur militaire reproche à l'ex-chef de la police d'avoir permis un célèbre gang opérant parmi les mototaxis de la capitale Kampala d'obtenir des armes et des munitions. Le général a plaidé non coupable. Il avait été limogé en mars de son poste de chef de la police par le président Yoweri Museveni, puis arrêté au mois de juin. En Centrafrique, une amnistie pour les combattants de groupes armés est impensable selon 5 ONG de défense des droits de l'homme. Les groupes armés en Centrafrique ont récemment présenté près de 100 revendications, dont l'amnistie générale à un panel d'experts de l'Union africaine qui organise une médiation avec le gouvernement. Les discussions doivent reprendre lundi dans la ville de Bouar.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, Donald Trump s'en est pris une nouvelle fois vendredi à son ministre de la Justice au lendemain d'une passe d'armes entre les deux hommes, Bagassi Koura.
Dans une salve de tweets, le président Donald Trump a repris une partie du communiqué envoyé la veille par Jeff Sessions, interprété comme une critique à peine voilée aux attaques régulières du président. Le ministère de la Justice ne sera pas indûment influencé par des considérations politiques, avait écrit Jeff Sessions. Jeff, c'est super, c'est ce que tout le monde veut. Donc, jette un coup d'œil à toute la corruption de l'autre côté, a répondu Donald Trump. Il cite comme exemple, je cite, la fondation Clinton, la surveillance illégale de la campagne de Trump ou la collusion russe avec les démocrates. Puis il conclut en ces termes, « Allez Jeff, tu peux le faire, le pays attend. » Trump lui reproche de s'être récusé de l'enquête de l'ingérence russe et les soupçons de collusion avec Moscou. Dans un troisième message publié sur son réseau social de prédilection, Trump réagit aussi à la peine de prison pour une jeune Américaine qui avait divulgué un rapport top secret sur le piratage russe en 2016. Il termine par ce commentaire et je cite « Cette peine, c'est vraiment rien comparé à ce qu'Hillary Clinton a fait. C'est tellement injuste, Jeff. »
Et Donald Trump a également annulé le nouveau voyage de son secrétaire d'État Mike Pompeo en Corée du Nord, prévu en début de semaine prochaine, en raison d'un manque de progrès sur la dénucléarisation qu'il a en partie imputé à la Chine. En raison de notre position beaucoup plus dure sur le commerce à l'égard de la Chine, je pense qu'il n'aide plus comme avant dans le processus de dénucléarisation, a-t-il déploré. Selon lui, Mike Pompeo pourrait se rendre à Pyongyang prochainement, une fois qu'une solution aura été trouvée avec la Chine. Et l'ancien candidat à la Maison-Blanche, John McCain, a décidé de mettre un terme à son traitement contre le cancer. La famille du sénateur l'a annoncé ce vendredi. Le sénateur républicain de 81 ans était soigné depuis juillet 2017. L'émissaire de l'ONU sur la Syrie organisera les 11 et 12 septembre à Genève une réunion avec la Russie, l'Iran et la Turquie sur la formation d'un comité constitutionnel chargé de doter la Syrie d'une nouvelle constitution. Ce comité chargé d'élaborer une nouvelle constitution syrienne sera composé de représentants du gouvernement de Damas et de l'opposition syrienne. Depuis 2016, Staffan de Mistura a mené 9 cycles de négociations indirectes entre régime et groupes de l'opposition à Genève et Vienne sans jamais parvenir à des résultats. Et par ailleurs, la Turquie prévient la Russie qui intervient militairement pour soutenir le régime de Damas contre une possible catastrophe en cas de soutien militaire à Idlib, l'ultime fief insurgé en Syrie. Les combattants pourraient durer longtemps, les civils seront touchés, a déclaré le chef de la diplomatie turque. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirak et Nathalie Barge.
Le premier président du Sénat ivoirien et ex-premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio a fait la déclaration de son patrimoine ce vendredi à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, un acte qu'il a qualifié de devoir citoyen. Cette agence a été instituée pour inciter les dirigeants à respecter l'éthique, le droit et la bonne gouvernance afin de lutter contre la corruption, a mentionné M. Ahoussou, ajoutant, je cite, « Nous produisons les lois, nous devons être les premiers à les respecter ». La Chine et le Botswana ont signé un accord permettant d'exempter Gaborone du paiement de 3 prêts sans intérêt pour un montant de 8 millions de dollars. Le protocole a été signé ce vendredi par le ministre des Finances Kenneth O. Matambo et l'ambassadeur de Chine au Botswana, Zhao Yambo. Les prix du cacao ont atteint leur plus haut niveau en un mois ce vendredi à 1732 livres sterling à Londres et à 2367 dollars à New York. En termes de fondamentaux du marché, la perspective reste négative pour la prochaine récolte africaine, selon des analystes estimant que l'offre venue d'Afrique de l'Ouest devrait être moins abondante que l'année précédente en raison d'une météo peu clémente.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Le Sénégal affûte ses armes pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019.
Aliou Cissé a convoqué 23 Lions pour le déplacement à Madagascar le 9 septembre. Le technicien sénégalais a opéré 5 changements par rapport au groupe qui a participé au Mondial 2018. Gardien titulaire en Russie, Kadim Mandiaye est remplacé par le gardien de Reims, Edouard Mendy, qui a récemment dit oui aux Lions. Les 4 nouveaux sont Pape Abou Cissé en défense, Sidi Sarr au milieu de terrain, Mbaye Diagne et Ndiaye Diédou en attaque. Pour le reste, les têtes d'affiche Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Keita Baldé et Mbanyang figurent sur la liste.
Et le sélectionneur du Nigeria a lui dévoilé une liste de 24 joueurs avec 2 nouveaux.
Il s'agit de Colin Djamilou de Paderborn en Allemagne et Semi Ajayi de Rotterdam aux Pays-Bas. Samuel Kalou de Bordeaux honore aussi sa première convocation. En revanche, John Obi Mikel, qui se remet d'une blessure, n'a pas été convoqué, tout comme Victor Moses, qui a pris sa retraite internationale. Dominé lors de la première journée par les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, Guernot Rohr et ses poulains doivent se reprendre contre les Seychelles le 7 septembre prochain.
Paulo Duarte a aussi publié sa liste au Burkina, Yacouba.
La principale information réside dans le retour des cadres Charles Kabore et Alain Traoré, qui retrouvent la joie de jouer avec Berkane au Maroc. Si les têtes d'affiche Bakary Koné, Jonathan Pitropa et Bertrand Traoré sont là, on note en revanche les absences d'Aristide Bansé, forfait, et de Plejus Nakoulma à la recherche d'un nouveau club après son départ de Nantes. Blessé dès son arrivée à l'Ajax Amsterdam, la pépite Hassan Bandé manque aussi à l'appel.
Et enfin en Europe, la 3e journée de Première Ligue s'annonce palpitante.
Et oui, Arsenal après 2 revers en 2 matchs et Manchester United, déjà battu une fois avant son choc à Old Trafford contre Tottenham, sont déjà dans leurs petits souliers. Tout va bien par contre pour le leader Man City, déjà 8 buts de marqués en 2 journées avant le déplacement chez le promis Wolverhampton. Liverpool et Chelsea, qui complètent le podium provisoire, sont également relativement ménagés avec respectivement la réception de Brighton demain et un déplacement à Newcastle dimanche.
Merci Yacouba Ouédraogo.
Le Monde. Le Monde, aujourd'hui, VOA.
Raïssa Jonda avec vous. À présent, les dossiers du jour. Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président sortant Emmerson Mnangagwa à l'élection du 30 juillet. Siégeant à Harare, les 9 juges ont rejeté à l'unanimité les allégations de fraude de l'opposition, faute de preuves. Alors, est-ce une surprise? Idriss Fall a recueilli l'analyse du professeur André Thomashausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Non. Parce qu'en effet, l'opposition de M. Chinamaza n'avait pas soumis à la Cour des preuves directes. Ils avaient soumis des témoignages de ce qu'on appelle en anglais de hearsay, de ce que des gens disent. Alors il manquait des preuves directes, documentaires. Il y avait beaucoup de spéculations et de soupçons. C'est très très intéressant comme comparaison. La Cour suprême du Kenya avait considéré que faire l'évaluation des preuves, ça pourrait prendre des mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois ou encore plus longtemps, et que dans ces circonstances, la Cour suprême du Kenya avait décidé en faveur de l'opposition. En tant qu'au Zimbabwe, la Cour a décidé à l'envers et se sont dit, bon, si nous n'avons pas des preuves suffisantes devant nous, nous n'avons pas un choix, nous devons déclarer le résultat officiel comme le résultat légitime et légal.
Est-ce que ce tribunal est vraiment indépendant?
Il n'y a jamais dans les relations humaines une vraie indépendance parce qu'évidemment chaque personnalité a une opinion, une vie qui est circonstancielle, qui s'intègre dans le reste de la communauté. Mais je suppose que les juges zimbabwiens sont quand même des professionnels. C'est comme ça qu'ils sont devenus les juges de la plus haute autorité judiciaire dans ce pays.
L'opposition, oui. Que lui reste-t-il à faire, le MDC, est-ce que c'est encore de sortir les gens dans les rues de Harare et Bulawayo avec tous les risques?
Nous avons eu cette expérience triste en Afrique. Le Mozambique était le dernier cas dans l'année 2014. L'opposition a pur et simplement refusé d'accepter les décisions judiciaires, les décisions finales, et ils ont continué pour 2 ans de provoquer des émeutes, de faire des grandes manifestations contre le résultat des élections. À la fin, ça ne leur a apporté rien. J'espère que l'opposition zimbabwienne apprendra et saura accepter la réalité, c'est qu'ils n'ont pas gagné l'élection, de se préparer mieux pour la prochaine élection, mais ils ne pourront pas renverser cette décision finale, et s'ils le feront, ils risquent de provoquer encore l'instabilité et la violence au Zimbabwe.
Et quel est le principal défi donc pour le président Emmerson Mnangagwa?
Comme il a pu rassembler seulement une majorité très faible, à peine 50,8%, il aura tout intérêt d'établir une plateforme nationale, d'intégrer la société civile, des intellectuels et surtout de faire la paix avec les secteurs économiques du pays. Il aura tout besoin d'une initiative privée pour refaire son pays, inspirer un peu de confiance dans les investisseurs étrangers.
C'était le professeur André Thomashausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies pointe du doigt la lenteur des pourparlers inter-burundais sous la médiation du président ougandais Yoweri Museveni et du facilitateur Benjamin Mpaka, ancien président tanzanien. L'opposition burundaise parle de recul sur tous les fronts, tandis que la population, tout en reconnaissant des progrès au niveau sécuritaire, indique que les meurtres et disparitions continuent clandestinement. Reportage à Bujumbura du correspondant de VOA Afrique, Christophe Kouhn.
Il y a 2 jours, le Conseil de sécurité des Nations Unies a été un peu plus clair et reconnaît que la situation sécuritaire est calme dans tout le pays. Le Conseil estime également que la décision de Pierre Nkurunziza pour ne pas briguer un 4e mandat en 2020 est un pas important vers la réduction des tensions politiques, sociales et sécuritaires. Les membres du Conseil de sécurité appellent tous les protagonistes burundais à faire des efforts pour la tenue d'élections libres, transparentes, justes et inclusives. Le représentant du Burundi auprès des Nations Unies, Albert Shingiro, tout comme les autorités de Bujumbura, sont satisfaits car le Conseil de sécurité vient de tourner la page de 2015 et se focalise aujourd'hui vers les élections 2020. À Bujumbura, certains habitants se posent des questions pertinentes, même si la plupart des personnes interrogées par VOA Afrique se réjouissent du petit mieux au niveau sécuritaire.
Oui, je pense que la sécurité devient de plus en plus bonne. Quand on commence les préparatifs des élections de 2020, ça, je suis d'accord. La sécurité n'est pas totale, mais elle devient de plus en plus bonne.
Nous avons perdu dans ces derniers jours 3 personnes en moins d'un mois. Y a-t-il la paix ou non?
Déjà, c'est une bonne chose, une très très bonne chose. Espérons que tous les Burundais, où qu'ils soient à l'étranger, qu'ils soient en Europe, qu'ils reviennent visiter leur propre pays, essayer de reconstruire le pays. Moi, je suis au Burundi. Et vraiment, il y a la paix, ça je peux vous le dire.
La situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, contexte sécurité, ça semble être normal, mais ce qui est marrant, quelquefois la nuit, on remarque qu'il y a quelque chose de genre couvre-feu, que la police applique, alors qu'on ne sait pas si ça devrait être ainsi. Eh bien, je ne saurais pas dire que tout va très bien au Burundi, mais attendons voir ce qui va se passer par après.
Tassien Sibomana, porte-parole des partis FNL et de l'UPRONA non reconnu par les autorités, affirme que le Conseil de sécurité des Nations Unies, en parlant de situation et non de crise au Burundi depuis 2015, fait un recul en arrière sur tous les fronts.
Je pense que le Conseil de sécurité a lâché prise sur la situation au Burundi. Sinon, il n'y a pas longtemps, on parlait de résolution. Maintenant, s'il faut parler de lenteur, s'il faut féliciter, je pense qu'il y a quelque part un relâchement quant à la considération de l'ampleur de la crise que vit le Burundi. Donc, il faut plutôt penser à leur faire un clin d'œil pour leur rappeler la responsabilité du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix à travers le monde.
Selon un analyste qui a requis l'anonymat, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne veut plus parler sincèrement pour ne pas fâcher les autorités de Bujumbura. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Et cap sur le Mali, où une partie de la population s'inquiète d'une possible crise post-électorale. L'opposant Soumaïla Cissé, candidat à la présidentielle, ne reconnaît pas les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Dans les rues de Bamako, les propos du président Ibeka après sa victoire et la déclaration de Soumaïla Cissé rejetant les résultats dominent les débats dans les grains. Ablaye Fama Koulibaly, communicant.
Si la Cour constitutionnelle proclame, on doit se limiter à ça. On doit accepter ces résultats si on veut être républicain. Soumaïla Cissé n'est pas d'accord avec ça. Il a ses raisons. C'est un homme politique. Il a avancé 2 arguments. Il dit qu'il va mener une lutte politique et une lutte judiciaire. Donc la lutte judiciaire est déjà arrêtée. Parce que après la Cour constitutionnelle, on ne peut plus lutter sur le plan juridique. Et maintenant, la lutte politique est dans cette lutte politique et la loi lui donne ce droit. Tout politicien est libre et a droit de faire des manifestations à tout moment.
La position actuelle de Soumaïla Cissé de ne plus reconnaître les résultats de la Cour constitutionnelle n'est point une surprise.
Parce que depuis le premier tour de l'élection présidentielle, il a montré avec insistance qu'il n'était pas d'accord avec ce que la Cour constitutionnelle, même le ministère de l'administration territoriale qui a donné les résultats provisoires, qu'il n'était pas d'accord. Il fallait s'attendre également à ce qu'il rejette ces résultats du deuxième tour.
D'autres pensent que c'est la Cour constitutionnelle du Mali qui n'a pas joué son rôle.
Quand j'ai écouté les deux présidents, chacun est dans son droit. Ce qui me fait mal en tant que citoyen du Mali, c'est que la Cour constitutionnelle, la manière dont la présidente s'est prononcée, elle, pour moi, c'était le déclic. Celle qui pouvait apaiser les tensions. Parce qu'elle n'est pas là pour regarder les yeux de quelqu'un. Parce que sa manière de juger les choses, sa manière de sortir, sa manière de parler aussi, fait croire aux Maliens qu'elle ne dit pas le vrai.
Soumaïla Cissé doit respecter les résultats des urnes et la proclamation de la Cour constitutionnelle.
Tu sais, en Afrique, c'est toujours comme ça. Quand un pouvoir organise une élection, si c'est mal organisé, il faut s'attendre à ça. Voilà, c'est très malin. Parce qu'aujourd'hui, le pays n'a pas besoin d'une crise post-électorale. électoral. Donc, Soumy doit savoir ça. Bon, en 2023, il peut être toujours candidat, il peut être toujours président. Donc, il doit mettre en tête que bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc, il doit reconnaître la victoire de Ibeka.
Le Mali, avec ses 18 millions d'habitants, 8 millions inscrits pour le scrutin, n'a pu avoir que moins de 3 millions d'électeurs, ce qui pose un problème de légitimité pour les deux candidats.
Ils ont été élus par 2 millions. Ça ne suffit pas pour qu'ils soient légitimes, mais ils sont légaux. L'opposant est légal, celui qui a été élu est légal. Mais l'illégitimité, c'est que les Maliens ne les ont pas plébiscités. Ça, c'est clair. Donc, ces politiciens, on ne peut pas dire qu'ils sont crédibles aux yeux du Malien lambda.
En tout cas, l'opposition malienne veut multiplier les actions. Une grande marche est prévue ce samedi à Bamako et dans certaines villes du pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Et ici, aux États-Unis, l'ancien avocat personnel de Donald Trump a plaidé coupable de fraude fiscale et bancaire et de violation d'une loi sur le financement des campagnes électorales. Il a reconnu avoir versé 130 000 et 150 000 dollars à deux femmes en échange de leur silence en 2016. Michael Cohen dit avoir agi à la demande du président Trump. Alors que risque maintenant le président américain ? Eric Manirakiza, adjoint à Washington, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a à trouver dans les enquêtes qui continuent, mais je vois que le chef de finance de la société Trump est en train de témoigner maintenant. Il a reçu une immunité, c'est-à-dire il ne peut pas être inculpé. Donc, il est libre de parler de tout ce qu'il sait sur la finance de la société. Donc, je crois que le président Trump, sa famille est en danger en ce moment.
Mais au départ, c'était l'enquête russe qui continue d'ailleurs, mais ce n'est pas lié.
Exactement. Même le président Trump lui-même a dit: vous avez commencé une enquête sur l'ingérence russe dans nos élections et maintenant vous parlez des autres choses. C'est pas une bonne chose. Il respecte beaucoup là-dessus. Mais ils ont déjà inculpé quelque chose comme 12 Russes fonctionnaires qu'ils ont trouvé, qui ont rempli les médias américains avec des fausses nouvelles pour aider Trump dans son élection, assurer la défaite de Mme Clinton. Mais pendant cette enquête, ils ont trouvé beaucoup d'autres choses, des problèmes de finance, fraude fiscale, tout ça. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de propriétés du président Trump, quand il était dans les affaires immobilières, beaucoup d'appartements, des maisons ont été achetés par des hommes russes très, très riches. Et ils ont payé un argent liquide. Donc c'est toujours douteux, ces choses-là.
Il ne peut pas être poursuivi en tant que président en exercice, mais quel est le préjudice politique que ça peut porter sur son administration?
Il ne faut pas oublier que le président Trump a gagné l'élection, mais il a perdu dans le vote populaire, n'est-ce pas? Madame Clinton a eu beaucoup plus de vote populaire. Donc maintenant, tout le monde regarde les élections législatives qui arrivent au mois de novembre. Et il y a des gens qui disent pas mal des électeurs ont perdu confiance dans le président Trump. Et c'est possible, c'est peu probable qu'ils peuvent prendre contrôle du Sénat. Mais la Chambre, c'est fort probable à cause de ces histoires avec des scandales de corruption que les démocrates ont gagné, vont prendre contrôle de la Chambre.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'épidémie de choléra dans le Sankuru, en RDC.
Le choléra, une maladie endémique dans plusieurs provinces de ce pays, où l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement reste un luxe pour des millions de personnes.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Willy Kindinda, chef de la zone de santé de Losambo, le chef-lieu de Sankuru. Il fera le point de la situation.
Nous écouterons les avis de divers spécialistes de l'OMS et du ministère de la Santé sur les moyens de combattre la maladie.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Et ainsi va le monde d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.